Alors, ce métayage dont je vais vous parler maintenant est un peu plus récent. Le baron de Sayas, lui, avait d'autres principes. Il est vrai que les temps n'étaient plus les mêmes. C'était un homme d'une soixantaine bien comptée, portant toujours jaquette et haute forme et vivant à cheval. Ses quartiers de noblesse lui venaient ni des croisades, ni des services de cour. La nuit des temps, de cette origine nobiliaire ne se perdait pas au-delà de l'époque révolutionnaire. À la fin du XVIIIe siècle, son ancêtre était un bon bourgeois, jalousant la noblesse, méprisant le peuple, avec des revenus suffisants pour lui faire apprécier sa vie tranquille de hobereau. L'orage de 93 le fit suer de peur. Ah, il s'en vengea. Il s'en vengea en lâchant tous les biens nationaux qu'il put. Quand la tempête fut passée, ce peureux maladif se serra dans sa vieille gentilhommière comme un fauve repu qui a du mal à digérer son excès de bien-être. Mais il avait un fils sur qui cette claustration campagnarde pesait comme une malédiction. Subjugué par la gloire napoléonienne, il s'était engagé dans les armées du Pic-à-Brel. Il y fit quelques étincelles, en revint avec une jambe raide, mais avec un titre de baron. Ah, la gentilhommière fut restaurée pour accueillir ce héros tout auréolé de gloire, mais surtout de son titre. Et c'est ainsi que le petit-fils du cuirassier de Rivoli se faisait saluer très bas par ses manants du nom de Monsieur le Baron de la Sayas. En tirait-il vanité? Moins que son épouse, née Loiseau, fille d'un riche tabellion charentais qui ne voyait l'humanité qu'à travers son face-à-main d'argent orné de fausses pierreries incendiaires. Madame la baronne était du type précieuse ridicule, qui ne voulait pas jouer les dames patronesses à cause de certaines promiscuités de relations, mais qui aurait facilement accepté pour le château du marquis de X une invitation qui se faisait attendre. Elle avait acquis pour son salon un énorme tableau, encadré de dorures provocantes et représentant un fort bel homme en costume de cour du Premier Empire, qui, suivant les visites, était l'aïeul conventionnel ou le chambellan du grand siècle. Oh, le baron lui avait des goûts beaucoup plus simples, et fuyant le regard sévère de l'ancêtre et les éternelles récriminations de sa noble épouse, enfourchait sa jument et parcourait la campagne. Ce jour-là, justement, le soleil printanier avec un petit air de Cupidon. Les prairies étaient en fête, le ruisseau jasait, pendant que les oiseaux roucoulaient d'estances énamourées. Monsieur le baron, dans cette nature en joie, pleine de promesses, bombait le torse, frisait sa fine moustache et se disait qu'après tout, il ne paraissait pas sa soixantaine. Il en arrivait dans ses réflexions devant la ferme des étangs où le conduisaient souvent ses rêveries imprécises. Il attacha sa monture à l'échalier de l'air et pénétra dans la cour par les étables. Une voix fraîche fredonnait près de là une naïve cantilène qui troubla le cœur du baron. C'était Aliette. Aliette, la fille du fermier. Un beau brin de paysanne, brune comme on ne sait plus effaire dans notre bocage, avec des yeux de braise à perdre Satan lui-même. Ses 18 ans capiteux étaient un défi à tous les serments de sagesse. Le baron l'aborda, se sentant très avantageux, et entama une conversation. Une conversation qui se prolongea au point que l'on en vint à s'asseoir au revers du palier. Et le temps passa, sans que Monsieur le baron et sa jeune compagne n'entendissent la calèche du château pénétrer dans la cour de la ferme. Ce fut un appel de la maîtresse de maison qui troubla le tête-à-tête. Madame la baronne, qui ne dédaignait pas rendre visite à ses métayers et à leur prodiguer de condescendants encouragements, venait d'être émerveillée par une splendide portée de porcelet et, consciente de son rôle de maîtresse, demandait à voir toute la famille porcine, y compris et surtout cet imposant bouddha de chair qu'on appelle un verra. Relevée et encore tout ébouriffée, Aliette, d'un tour d'œil au-dessus des toits, réalisa de suite la situation. Et voilà que la baronne et sa mère se dirigeaient vers la porcherie. « Oh, notre maître, dit-elle, au baron prêt à s'enfuir, au risque d'être découvert. Fourrez-vous là-dedans et je vais refermer la porte. » Et en voyant le verra dans l'air, elle poussa monsieur de la Sayas dans la porcherie. À cet instant, la fermière arrivait près des toits, suivie de la baronne. braquant son inséparable face à main sur la porte par laquelle venait de disparaître son gredin de mari, tout en se tenant quand même à distance respectueuse de la clôture, fermant courette. Oh Dieu du ciel, à cette minute, tous les saillas de tous les temps ont dû frémir, depuis le chambellan de Louis XVI jusqu'au colonel d'Empire. La fermière ouvrit la porte et appela. Mais comme monsieur le baron, piteux et odorant, allait sortir de sa retraite fâcheuse, la futée Aliette, qui avait fait le large détour, entra en scène, essoufflée et criant « Oh, notre pauvre monsieur, j'en ai bien vu tout le drame, mais je ne pouvais rien faire pour l'empêcher. » Et se tournant vers la baronne interloquée, « Eh oui, notre bonne maîtresse, monsieur le baron a voulu, comme vous, voir le verra, mais ce méchant bestiau l'a chargé, et j'ai eu juste le temps de le fourrer là-dedans pour pas qu'il soit mordu. » Et elle ajouta même avec un sourire dont elle ne chercha même pas à cacher l'ironie, « Ha ha !» Vous voyez bien, même la baronne, comme monsieur est tout pâle. On voit bien qu'il vient de faire un effort qui n'est plus de son âge. Si la baronne admit l'aventure, Aliette n'en fut pas quitte à si bon compte avec sa mère. Et, le soir, il fallut bien s'expliquer. Tout se passa d'abord sans trop d'éclat. La fermière avait eu 18 ans, elle aussi, et en gardait même de fort beaux restes de cette jeunesse. Mais quand Aliette, pour sa défense, avoua qu'elle avait ainsi gagné la moitié du fermage, alors là, la mère éclata, elle s'emporta. « Ah, le vieux voleur, le vieux cochon, quand je pense qu'avec moi, il s'est déjà payé d'au moins 2 années d'avance. »